C'est que l'intelligence artificielle, en quelques mots, comment pouvez-vous nous définir ce mystère?
Alors très rapidement, l'intelligence artificielle est à la fois une discipline et un ensemble de méthodes pour aller simuler un phénomène via une modélisation algorithmique dans l'objectif de répondre à une question, de résoudre un problème ou de comprendre des phénomènes via une simulation automatique sur un ordinateur.
Une machine qui de fait...
C'est certaines composantes de l'intelligence humaine mais n'en maîtrise qu'une seule qui est l'intelligence analytique via ce fameux raisonnement algorithmique qui est en fait un raisonnement avec des opérations exécutées, une certaine logique implicite ou explicite en fonction du type d'algorithme. Absolument pas, en fait, ChatGPT va être un assistant pour vous. Par ailleurs, si tout le monde utilise ChatGPT avec des éléments de langage similaires, on va tendre vers une certaine homogénéité dans les réponses. Donc en fait, non, ChatGPT va être là pour vous assister de la même manière. Au début de ce reportage, il y avait des scénaristes d'Hollywood. Moi, j'ai des très bons amis qui sont scénaristes à Hollywood, parce que j'habite à Los Angeles, et qui me racontaient eux-mêmes qu'ils n'ont pas peur de l'IA strictement. Ce dont ils ont peur, ce sont des directeurs exécutifs des grands groupes de production qui, eux, vont décider de les remplacer par une intelligence artificielle. Le créatif connaît sa valeur de la même manière que vous la connaissez certainement, et je le sais, voilà. C'est une révolution, rétrospectivement, une fois en fait le moment passé.
C'est passé.
Voilà. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on vit un moment inédit dans l'histoire de l'humanité, pour plein de raisons, dans l'accès au savoir, mais aussi dans la génération de contenus éditoriaux, vidéos, images et autres. Et ça peut impacter tous les métiers. Par ailleurs, lorsqu'on parle de métiers, de comment l'IA va interférer avec ces métiers, il faut davantage parler de tâches et non de métiers strictement, puisqu'en fait, c'est ça qui va se passer, ce que vous venez d'évoquer, à savoir d'écrire des questions, c'est une tâche de votre travail. Votre travail dépasse cette simple tâche.
Je ne vous fais pas dire.
Dans la médecine dans laquelle l'IA va interférer, va jouer un rôle très bénéfique, c'est la médecine prédictive, comme vous l'avez très bien dit, à savoir d'aller prédire les risques de développement de maladies, d'accidents cardiovasculaires et autres d'un individu en fonction de données très larges. Sur lui, mais aussi sur son environnement, etc. Et puis, sur la connaissance de la maladie qu'on a. Il y a aussi la médecine qu'on appelle personnalisée. On va aller personnaliser les traitements, on va aller personnaliser même des examens en fonction du type de patient. Et puis enfin, un domaine sur lequel je travaille, qui est la médecine de précision. En l'occurrence, nous, on travaille avec mon équipe sur un algorithme qu'on a développé et qu'on a fait un produit de recherche, et là, on va passer au produit industriel, qui est le développement d'un algorithme pour détecter sur une simple mammographie le cancer du sein au stade infraradiologique 2 ans avant qu'on voit une tumeur. Et là, on appelle ça précision, parce qu'on va être de plus en plus précis, même dans les diagnostics, dans les pronostics aussi. Donc ça va assister les médecins.
Ça avance très vite.
Oui, ça avance très vite. Ça pourrait avancer plus vite parce qu'en fait, on a besoin de beaucoup d'argent. Et avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, tous ces discours apocalyptiques, long-termistes, comme ceux de Elon Musk et de d'autres, en fait, on peut avoir un pas en arrière en disant on ne veut pas mettre trop d'argent dans l'IA parce qu'on a peur. En fait.
Et l'enjeu.
La peur, elle est assez injustifiée à mes yeux parce que comme on dit, bah oui, maintenant il y a des traducteurs, on n'a plus besoin d'apprendre les langues. Mais en fait, c'est oublier le rôle de l'apprentissage. L'apprentissage, il sert à deux choses. Certes, à appliquer vos apprentissages dans la vie pratique, on appelle ça la transmission des savoirs en éducation, mais c'est aussi tout simplement à comprendre cette discipline. C'est-à-dire que le fait, par exemple, d'apprendre à compter, je pense qu'aujourd'hui, vous ne faites plus de calculs très compliqués, que si vous en avez besoin, vous prenez votre calculette, et vous avez raison.
J'en ai jamais fait, des calculs très compliqués, mais continuez.
Mais cela étant dit, le fait d'avoir appris vos tables de multiplication petits, ou le simple fait d'apprendre à faire une division euclidienne, ça fait qu'aujourd'hui, vous avez un regard critique sur un résultat qui vous est fourni, ou vous dire, tiens, là, il y a une erreur. Je pense qu'il y a une erreur, il y a un problème dans le calcul. Ou encore, le fait d'apprendre une langue permet aussi de comprendre cette langue et de comprendre la culture qui lui est attachée. Et ça, un traducteur ne le fera pas. Donc, c'est apprendre n'est pas seulement pour transmettre ses savoirs.
Il y a quand même...
Conseil, c'est de revoir la méthode d'évaluation des élèves. Pendant très longtemps, on a pensé il faut évaluer les élèves de telle manière, et on va leur donner une dissertation à faire à la maison, ils vont revenir avec la dissertation. Mais en fait, ça ne peut plus marcher aujourd'hui avec les outils numériques.
Ouais.
Parce qu'un élève peut tout à fait utiliser ChatGPT et plein d'autres outils par ailleurs.
Il peut même aller sur Internet déjà
et faire un copier-coller.
Ouais. Ouais.
Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est davantage, c'est une opportunité. Il y a des risques et tout, bien évidemment, mais c'est une opportunité. Le risque, en l'occurrence, c'est que l'élève croit systématiquement ce qu'il va rechercher sur Internet ou ce qui va être généré. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais concernant ce point-là dont vous parlez, je pense qu'il faut au contraire essayer de... c'est une opportunité pour revoir les méthodes d'évaluation des élèves.
Opportunité, mais risque.
Comme la majorité écrasante des scientifiques du domaine et des ingénieurs, je n'ai pas signé cette lettre et je suis contre cette lettre pour une raison toute simple, c'est qu'elle se base sur un... Elle ne se base pas du tout sur un point de vue scientifique, mais un point de vue politique et marketing. C'est-à-dire qu'ils ont une vision long-termiste apocalyptique où ils nous disent regardez ce qui va se passer dans très longtemps, ce qui n'arrivera pas, je vous assure. Par contre, on a des enjeux aujourd'hui que ces mêmes personnes ne regardent pas, qui sont en l'occurrence la discrimination technologique, les enjeux environnementaux ou encore ce qu'on appelle le digital labor, les travailleurs du clic, et le fait qu'on aille faire travailler dans des conditions inacceptables des gens à l'autre bout du monde pour aller annoter et nettoyer de la data.
Et pourtant...
J'ai beaucoup voulu, si je puis me permettre, et pourtant c'est une femme brillante, mais je l'en ai voulu parce qu'en fait elle a alarmé tous les gens qui ne sont pas du métier et qui vont faire du mal aux gens du métier, ou par ailleurs même on risque de mal flécher du coup les fonds de recherche ou les fonds privés. honnêtement, il y a des risques, on le sait. Mm-hmm. Et cette vision apocalyptique long-termiste et n'a pas de base scientifique et vraiment, enfin,
pour vous, il n'y a pas de conséquences sur l'humain lui-même.
C'était si, il y aura des conséquences.
Ce que disait Ursula von der Leyen quand elle parle de l'extinction des espèces humaines.
Absolument pas. D'ailleurs, je dis toujours, si vraiment il y a une machine qui vous attaque, vous la débranchez. Mais en tout cas, soyons
clairs. Mais c'est une dépendance aussi.
Mais alors, ça, voilà, les risques pour moi, ils sont là. Les risques sont dans notre rapport à la réalité. Mm-hmm. C'est-à-dire savoir qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est virtuel. On l'a très bien vu dans le film avec cette génération de cette journaliste. Voilà. On a aussi le rapport à la vérité dans le contenu de l'information qui nous est transmise. Ça, pour moi, sont des dangers sur lesquels on doit travailler. Mais absolument pas cette extermination. Quand Elon Musk dit « les IA seront bien plus intelligentes que nous », c'est faux, elles sont déjà bien plus intelligentes que nous sur le calcul analytique, et tant mieux. Maintenant, sur l'émotion, l'intelligence pratique ou l'intelligence...
C'est l'esprit critique, en fait, qui nous...
Voilà, et je pense qu'il faut, juste... Le doute, tout à fait. Il faut juste arriver à comprendre notre complémentarité et ne pas écouter seulement des acteurs à la vision long-termiste apocalyptique.
Oui, on va écouter collectivité sans des frottements très importants sur le marché du travail. C'est-à-dire que... Par définition, vous inventez la machine à vapeur, les gens qui sont des maréchaux ferrants, c'est compliqué pour eux, quoi. Si un jour vous avez les véhicules autonomes, vous avez 15 millions d'emplois qui sont directement liés aux États-Unis, au transport. Donc, ça ne sera plus les mêmes types d'emplois. Ouais. Et c'est la même chose dans toutes les technologies qui apparaissent. Vous avez tout un tas de métiers qui disparaissent. C'est une bonne nouvelle. La productivité, je crois, c'est important de le rappeler, c'est la base du progrès. Et
Oui, c'est peut-être plus des tâches. Que des métiers qui vont disparaître. Si je prends pour reprendre mon métier par exemple de journaliste, vous aurez peut-être des ChatGPT ou ce genre de technologies pourront bâtonner des dépêches, mais mais pas faire de l'enquête.
Donc la plupart du temps, c'est pas le remplacement, mais c'est une forme de déqualification. Ça s'est étudié pour le moment dans d'autres secteurs. Ce qui passe, c'est pas qu'on va substituer de l'automatique ou de l'IA, mais qu'une partie des activités vont être contrôlées par ça, et que le travail, du coup, devient moins qualifié et que les personnes sont assujetties au fonctionnement par IA. Ça s'est vu dans beaucoup de gens, et pour moi, c'est sans doute la chose la plus inquiétante. C'est le risque d'une prolétarisation généralisée.
Jusqu'à 2021, mais sans doute un jour pourra-t-il reprendre l'Internet en cours. Et puis, en fonction de ce que les humains ont inventé, créé et dit, eh bien, il va tirer des corrélations, et ces corrélations vont donner un texte qui n'est donc pas une nouveauté d'une création et qui repose sur le travail humain. Derrière la reconnaissance du chat, eh bien, il y a des millions d'humains qui ont labellisé des photos de chats. Pareil sur les innovations médicales. Ah oui, il y a des centaines, de milliers d'étudiants qui ont labellisé
des
scans de tumeurs. Et donc, c'est pour ça que l'intelligence artificielle... Donc, ce que je veux dire, c'est qu'elle produit des choses qui s'appuient sur le travail humain, qui ne sont pas créées ex nihilo.
Ils ne vont pas faire des scénarios, mais ils vont raccourcir le temps d'écriture. Donc ils vont réduire les coûts. Donc les producteurs vont évidemment nous dire aux scénaristes. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent, alors qu'on travaillait à 20 en une semaine, de travailler à 5 en deux jours. On ne vous demande pas de faire une règle de 3, mais voilà. Et donc c'est pour ça que les scénaristes, c'est l'opinion de la guide des scénaristes en tout cas, on doit connaître ces logiciels le mieux possible pour, au moment inévitable, absolument inévitable, où la négociation arrivera, où les outils seront là, donc de toute façon les producteurs les utiliseront, il faut qu'on soit les meilleurs utilisateurs et penseurs de ces outils.
Disons que d'avoir il y a plusieurs sujets. D'avoir un AI Act, c'est une bonne nouvelle.
C'est nécessaire.
C'est nécessaire, de la même manière qu'on l'a fait pour les données à caractère personnel, qui, à part d'ailleurs, influencé le texte américain.
C'est vrai.
Voilà, exactement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, c'est une fois comment il est écrit, ensuite comment il est appliqué. Donc il y a trois phases dans la loi. Est-ce qu'elle doit exister, comment elle a été écrite et comment elle est appliquée. Donc elle doit exister, on est d'accord. Comment elle a été écrite, il y a plein de choses qui sont extrêmement bien. Par exemple, d'aller regarder le niveau de danger d'une intelligence artificielle en fonction de l'application. Donc on fait la différence entre la technologie et l'application. Je dis ça parce que, par exemple, une intelligence artificielle de reconnaissance spatiale n'est pas mauvaise en soi. On l'utilise à l'aéroport pour passer la douane. Elle est mauvaise dans certaines applications, comme par exemple la surveillance de masse dans les rues, par exemple.
D'ailleurs, en Chine, notamment.
Voilà, exactement.
Mais est-ce que l'Europe peut trouver sa place dans ce qu'on voit, par exemple, dans ce qui se développe aux États-Unis? Vous habitez en Californie. Est-ce que nous, Européens, on peut avoir une place dans ce marché-là?
Alors, on a déjà une place. C'est juste qu'on l'a décrit souvent mal, mais on a déjà une place. Et par ailleurs, on a une place de deux manières différentes. On a des Français partout dans le monde. Alors, vous allez me dire, oui, mais ils ne sont pas chez nous. Certes, mais ils travaillent indirectement pour la France aussi. Beaucoup travaillent avec la France. Deuxièmement, on a énormément de talents en France. On augmente en fait les budgets. Il faut les augmenter bien plus. Et il faut que l'Europe aussi soit un peu moins conservatrice dans la manière dont elle affecte les budgets.
Du coup, ce qu'est en train de faire Xavier Niel avec son Deep Tech
qui est la deep tech, qui est la translation des travaux de recherche à l'industrie, avec des gens qui font de l'IA, avec des vrais ingénieurs et des vrais scientifiques, c'est l'avenir.
Précisons que...
Voilà, c'est un peu dommage. Vous avez donné tous les exemples, c'est-à-dire la consommation de matières premières, l'entraînement, le fait d'aller transporter des data, etc., vous avez tout dit. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a seulement certains types de modèles qui consomment énormément. Aussi, il faut comprendre qu'il y a plein de chercheurs et de scientifiques qui travaillent non pas à aller mesurer la consommation énergétique directement de leur travail, parce que c'est très compliqué. Par contre, ce qu'on peut faire, et ce que le AI Act, en fait, met à demi-mot, c'est qu'il faut aller démontrer, selon moi, et c'est ce que je fais, moi, en tout cas, dans mon travail, d'aller démontrer que je fais l'effort pour minimiser cette consommation. Et on peut la minimiser au regard du jeu de data qu'on va utiliser, au regard du type d'algorithme qu'on va utiliser, etc. Après, il y a aussi le coût de la décision. Si c'est faire un algorithme pour aller sauver des millions de gens, c'est peut-être mieux que si c'est pour faire un algorithme pour identifier un chien sur une photo. Je prends le chien, mais ça pourrait être autre chose. Voilà. Et enfin, il y a quand même un point qu'il faut aussi préciser, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour aller créer des nouveaux modes de transport de l'information par la lumière, par exemple, qui permettraient d'aller plus vite et de consommer beaucoup moins d'énergie. Aussi pour avoir des serveurs qui consomment moins d'énergie, des serveurs dont on va utiliser l'énergie pour aller, par exemple, chauffer une maison ou une piscine. Ça existe. Il va falloir aussi, il y a deux choses, il va falloir que les acteurs montrent qu'ils cherchent à minimiser cette consommation, premièrement. Deuxièmement, il va falloir aussi qu'on mette de l'argent sans aller vers un solutionnisme technologique et scientifique. On sait qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites pour diminuer cette
consommation. Alors, il y a tellement de choses
déjà, parce qu'il y a eu déjà des cas, et vous parliez de la politique, mais aussi sur des points de vue personnels, on a eu beaucoup d'images, de visages de personnes sur des images pornographiques, par exemple, donc c'est très compliqué, c'est très tendu. Maintenant, la réponse à ça, elle est multiple. Il y a une réponse technologique qui est, par exemple, il y a des gens qui travaillent, et ça existe déjà, ce qu'on appelle du watermark, c'est du tatouage numérique, d'aller mettre... En fait, une image, c'est un signal. C'est plusieurs signaux combinés. Et en fait, d'aller introduire dans ces signaux un petit signal qui va être l'identification, le label qui dit que cette image est vraie. Et ça, difficile à imposer, quasiment impossible à décrypter. Et donc, ce sera un moyen, en fait, de suivre la traçabilité donc d'un contenu. Après, c'est aussi... L'esprit critique, ça s'apprend comment? C'est la culture de l'effort. C'est-à-dire d'avoir une image, se poser la première question, c'est d'où vient cette image? Seulement le d'où vient cette image, et c'est là où vous, les journalistes, vous avez c'est un métier d'avenir, le journalisme, parce que vous, on vous croit. Et les journaux, on les croit, et quand c'est un journal qui donne une image ou quand c'est un individu, c'est pas la même chose. Des mesures technologiques, des mesures non technologiques, et par ailleurs, ce qui n'est pas encore super appliqué, c'est qu'il y a des gens qui vont partager ces informations, ces images, ces films sur les réseaux ou autres, sur Internet, et qui ne prennent pas la responsabilité de ce partage. C'est-à-dire que, après tout, si vous partagez un contenu, un deepfake sur un réseau, vous devriez aussi être responsable de la propagation virale de ce... de pouvoir aussi être poursuivi. C'est-à-dire qu'il faut que les gens prennent leur responsabilité individuelle et collective.
Parce que mon boulot, c'est de travailler sur les fake news, les fausses informations, que l'intelligence artificielle, dans mon domaine, donne des possibilités absolument incroyables. C'est-à-dire que... Alors, il y a des possibilités aussi super. On peut, par exemple, maintenant traduire en direct votre voix en italien, en allemand, et ça va être génial avec son téléphone. Sauf que je peux aussi vous remplacer par quelqu'un d'autre, vous faire dire n'importe quoi, et donner à ça une ampleur énorme, parce que vous pouvez ensuite utiliser des bots pour aller envoyer vos contenus sur Internet de partout. En fait, ça fait rentrer la désinformation dans une nouvelle ère. Je ne peux pas vous dire à quoi ça va ressembler, je peux simplement vous dire que c'est un peu inquiétant. Ouais.
Une photo, on peut se demander si elle est vraie, mais demain, il faudra aussi qu'on se demande si... une photo vraie n'est pas fausse.
Oui.
Et c'est un peu ça où là, on en vient à des questionnements autour de la vérité de ce qu'on voit en ligne. C'est que maintenant, tout va être questionné. Et vous le savez, en tant que journaliste, faire passer des informations, c'est déjà très compliqué aujourd'hui. Mm-hmm. D'être pris au sérieux, c'est d'être compliqué. Dès qu'on produit une image, on a vraiment beaucoup de gens qui vont aller dire c'est un montage, c'est une photo, enfin, c'est une capture d'écran trafiquée. Alors là, maintenant, comment leur prouver que c'est pas vrai? Comment aujourd'hui je prouve qu'une image est vraie? C'est tout aussi difficile que prouver qu'une image est fausse.
Besoin de redevenir critique. Nous sommes dans une période probablement un peu intermédiaire dans laquelle la plupart des gens ont appris à consommer du réseau social de manière peut-être quotidienne ou en tous les cas assez importante sans jamais remettre en question ce qui s'y fait. Et probablement, on peut espérer que la technologie va avancer jusqu'à un moment, dans quelques temps, où on pourra distinguer ces contenus, on pourra probablement les détecter automatiquement, en tous les cas les classifier.
C'est un peu fou.
Les attaquants ont toujours un pas d'avance, puisque le défenseur réagit. Et donc, en tout état de cause, ça doit quand même interroger tout le monde sur ce qu'on pense d'une information qui arrive et comment on la vérifie. Et ça, c'est un apprentissage à faire.
Introduis ça à à l'échelle industrielle, parce que là, on avait des cas particuliers, mais là, maintenant, on est à l'échelle industrielle. Et de fait, on crée les conditions d'une société de défiance, si vous voulez, généralisée. Et ça, c'est quelque chose... La défiance, c'est quelque chose... On ne peut pas vivre avec. On est obligé de vivre de façon un peu naïve les uns avec les autres.
Mais vous avez...
Sinon, c'est assez risqué que certains médicaments, certaines substances chimiques et d'autres choses, c'est des choses que l'on devrait avoir entre, comment dire, prendre en compte, comme dans toute industrie. Pourquoi cette industrie serait la seule à ne pas être obligée de passer par un certain nombre de critères de certification ?